Et comme chaque mardi et comme promis, on retrouve Frédéric Suteau pour décrypter 7 jours d'actu en France. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors c'est l'été, hein, toujours en France, mais il y a quelques faits marquants dans les derniers jours, notamment le statut de la première dame qui a été précisé.
Brigitte Macron, l'épouse d'Emmanuel Macron, le président élu en mai dernier, quel rôle va-t-elle tenir auprès de son mari durant le quinquennat? Quelle prérogative? Le Palais de l'Élysée a publié un texte qui donne les contours de tout cela. Emmanuel Macron s'y était engagé durant la campagne électorale, s'il était élu, à savoir clarifier le rôle de la première dame, comme c'est le cas dans de nombreuses démocraties, où la compagne, l'épouse du chef de l'État, jouit d'un statut particulier, au sens même juridique du terme. Dans l'absolu, Emmanuel Macron aurait souhaité qu'une loi ou un décret entérine les choses, mais visiblement, l'opinion française n'y est pas prête. En tout cas, une pétition a circulé ces dernières semaines et a recueilli en très peu de temps plus de 300 000 signatures pour s'opposer à tout texte de loi pour ce statut de la première dame, qui définirait donc un texte de façon trop rigide, trop définitif, le statut de la première dame. Et donc c'est un simple texte non contraignant qui n'engage que Brigitte Macron et le président, et bien que l'Élysée vient de publier un texte qui n'engagera en rien les prochaines premières dames. Alors, que nous dit-il ce texte? Il précise le rôle public, les missions que va occuper Brigitte Macron, elle qui a 64 ans, 25 ans de plus que son mari. Elle devra assurer la représentation de la France aux côtés du président lors des sommets et des réunions internationales. Rôle classique pour la première dame, rôle qu'elle a joué d'ailleurs depuis 3 mois, le 14 juillet par exemple, quand Donald Trump, le président américain, est venu à Paris avec son épouse, le couple Trump, le couple Macron, qui se sont retrouvés en haut de la Tour Eiffel pour un dîner qui avait été très médiatisé. Brigitte Macron devra aussi répondre aux sollicitations de Français et de personnalités qui souhaitent la rencontrer. C'est écrit. Elle aura pour rôle de superviser la tenue des manifestations, des réceptions officielles à l'Élysée. Un rôle de superintendante en quelque sorte. Elle devra soutenir également des manifestations à caractère caritatif, culturel ou social, ou participant, nous dit-on, au rayonnement de la France. Parmi ses prérogatives encore, eh bien, maintenir un lien continu d'écoute et de relations avec les acteurs de la société civile dans les domaines du handicap, de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfance ou encore de l'égalité homme-femme. Son agenda sera rendu public, ce qui n'était pas forcément le cas jusque-là. Le président pourra également lui confier des missions spécifiques et, selon ce texte de l'Élysée, cette charte, Brigitte Macron fera régulièrement un bilan de ses différentes actions. Rien de nouveau donc en soi quand on regarde toutes ces précisions, mais cela a le mérite d'être écrit. Et quid de la question des moyens? C'était l'un des points clés que le chef de l'État voulait clarifier, qu'il y ait plus de transparence sur les moyens humains, financiers, mise à disposition de la première dame. L'Élysée précise que Madame Macron bénéficiera de 2 conseillers présidentiels et d'un secrétariat. Sa sécurité, sa protection sera assurée par le GSPR, le groupement de sécurité de la présidence de la République. Quant à la rémunération de Brigitte Macron, elle n'en aura pas. Toutes ses actions seront financées sur le budget de la présidence, mais l'épouse du chef de l'État ne bénéficiera d'aucune rémunération propre. Pas de salaire. De même, elle ne disposera pas de frais de représentation ni de budget alloué. Tout sera pris sur le budget de la présidence. Voilà pour les grandes lignes dévoilées cette semaine par l'Élysée à propos du rôle de Brigitte Macron.
Un autre fait marquant, c'est bien les 100 premiers jours du président Emmanuel Macron. Ce cap vient d'être tout juste passé. Et devant lui, il y a de gros dossiers, notamment celui de la réforme du Code du travail.
Oui, alors ces 100 premiers jours ont été marqués par la loi dite de confiance, de moralisation de la vie publique. Les parlementaires ont planché et validé le texte en juillet avec des mesures emblématiques, l'impossibilité par exemple pour les parlementaires d'employer avec les fonds qui leur sont alloués des membres de leur famille. De même, pas plus de 3 mandats pour un député, par exemple. Tout cela a alimenté la chronique politique du mois de juin, du mois de juillet. Tout le monde a eu droit ensuite à des vacances méritées, ministres, députés, sénateurs, c'est l'été en France. Mais la fin du mois d'août approche et effectivement, le gros dossier qui arrive, c'est la réforme du Code du travail. Il va s'agir du premier test pour le président Emmanuel Macron depuis son élection. Premier test au sens où, jusqu'à maintenant, durant ses 100 premiers jours, on l'a beaucoup vu, surtout rencontrer des chefs d'État, de gouvernement étrangers. On l'a vu soigner sa stature internationale, de Donald Trump à Vladimir Poutine, en passant par Benjamin Netanyahou et Angela Merkel. Mais sur le plan de la politique intérieure, au-delà de cette loi de la moralisation de la vie publique, eh bien, il est attendu Emmanuel Macron sur ce dossier de la réforme du Code du travail, dans la mesure où il veut aller vite et qu'il va procéder par ordonnance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas là un projet de loi et toutes les étapes habituelles à l'Assemblée nationale, au Sénat, ce qu'on appelle la navette entre les deux assemblées, tous les amendements qui peuvent être déposés et qui donnent lieu à des heures, des jours de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Là, le président et son premier ministre, Édouard Philippe, vont procéder par ordonnance. En gros, le texte sera présenté sans modification possible. Ces ordonnances seront rendues publiques le 31 août, mais l'idée, tout de même, pour l'exécutif, est de donner l'impression, au moins, qu'il y a un semblant de discussion toute cette semaine. Avant d'en savoir plus sur le contenu de cette réforme du Code du travail, eh bien des discussions se tiennent au ministère du Travail, discussions avec le patronat, avec les syndicats, des pourparlers qui sont pilotés par Muriel Pénicaud, ministre en chef du Travail. Elle va devoir dévoiler ses cartes de façon un peu plus claire, l'objectif étant bien entendu de ne pas braquer les syndicats, car la rentrée de septembre pourrait être houleuse. Syndicats, partis politiques d'opposition, notamment la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ont déjà annoncé qu'ils descendraient dans la rue, car cette réforme du Code du travail ne fait pas l'unanimité. Le grand axe, on le connaît, c'est de donner plus de flexibilité aux entreprises pour la signature d'accords d'entreprise. Eh bien, la CGT et Sud, deux des syndicats français, sont déjà sur le qui-vive, ils ont appelé à manifester le 12 septembre prochain. Rendez-vous est pris avant même de connaître le contenu des ordonnances. Vouloir renforcer le dialogue social au sein des entreprises, c'est une chose, c'est ce qu'avancent les syndicats, mais ils veillent au grain. Ils craignent que le gouvernement, derrière les mots et la communication officielle, que le gouvernement n'ait qu'un objectif, donner plus de latitude aux patrons, aux employeurs et pas aux salariés. Car aujourd'hui, une négociation se fait le plus souvent à l'échelle nationale pour tout un corps de métier, des accords de branche, comme on dit. Alors que le but de la réforme, de cette réforme du Code du travail, est de donner plus de latitude à chaque entreprise individuellement pour sceller des accords sur le temps de travail, les conditions de travail, les rémunérations, les modalités de licenciement. Le gouvernement a un calendrier précis en tête, publier les ordonnances, on l'a dit, fin août, adopter le texte en Conseil des ministres le 20 septembre pour le publier dans la foulée au journal officiel, afin qu'il soit applicable, car une loi, si on prend le processus normal, une loi peut mettre des mois, des années avant d'entrer en vigueur. Discussion à l'Assemblée, on l'a dit, décret d'application, etc., etc. Ce processus, parfois, prend quasiment toute la durée du quinquennat. Or, Emmanuel Macron veut aller vite. Il ne veut pas attendre 2 ou 3 ans pour voir cette réforme appliquée avec les résultats qu'il escompte. Les syndicats, eux, en tout cas, sont dans leur starting block. Ils sont remontés car il y a eu quelques mesures qui ont été prises ces dernières semaines en catimini, mais qui ne sont pas passées aussi inaperçues que le gouvernement l'aurait souhaité. La baisse, certes minime, mais la baisse de l'aide au logement. 5 € de moins pour les étudiants pour cette aide au logement à partir du mois d'octobre, ou la volonté encore du gouvernement de diminuer les emplois aidés, ces emplois qui bénéficient de subventions publiques, mais dont bénéficient de très nombreuses personnes dans les collectivités territoriales. Donc oui, Cette réforme du code du travail va être un test. Les syndicats vont-ils réussir à mobiliser les salariés et l'opinion? Ou à l'inverse, les Français vont-ils bouder l'appel à la résistance des syndicats, donnant implicitement le feu vert au président? Affaire à suivre, comme on dit. Une fin d'été en pente douce avant la rentrée de septembre. Il reste encore 2 semaines avant la grande reprise, la fin des vacances, la rentrée scolaire avec les écoliers qui reprendront le chemin de l'école. La rentrée scolaire fixée au lundi 4 septembre.
Merci Frédéric pour avoir décrypté l'actualité pour nous en France.
Merci, à bientôt.
À la semaine prochaine. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS, bien entendu.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french